Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Table. Comment former notre esprit critique à l'heure où fake news et théories du complot circulent librement sur les réseaux? Le psychologue et mathématicien Nicolas Gauvry nous rejoindra à partir de 12h55 pour évoquer les principaux enseignements d'un travail collectif réalisé sur cette question et réuni dans un ouvrage, Les Têtes Bien Faites, qui paraît aux Presses Universitaires de France. Mais d'abord, Bernhard Schlink, une histoire allemande après le succès mondial du Liseur adapté par Hollywood, le romancier allemand revient avec Olga, chez Gallimard, une vie de femme qui se déploie de la fin du 19e jusqu'aux années 70, prise dans la tourmente des guerres et des rêves de grandeur d'une nation. Bernhard Schlink, écrivain et juriste, et surtout notre invité, à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Il a choisi de l'appeler Olga, c'est donc le nom de cette héroïne qui donne aussi au roman son titre. Bonjour Bernhard Schlink.
Guten Tag Olivia.
Et bonjour à votre voix française, Florence Roucou, comment bonjour.
Bonjour.
Ce trait de caractère, celui d'Olga, trait de caractère qu'elle affiche dès l'enfance et que vous décrivez dès la première ligne du roman, elle est facile à garder. Elle aime avant tout se tenir debout et regarder autour d'elle. Est-ce que ce trait de caractère va la poursuivre toute sa vie, calme, déterminée, très terrienne? C'est ainsi que vous l'avez pensé, votre héroïne?
Oui,
je l'ai imaginé comme cela dès le début.
Und, in meine Heldin haben Eingang gefunden, Frauen dieser Generation.
Et évidemment, certaines femmes de cette génération-là ont trouvé leur entrée par l'intermédiaire d'Olga.
Meine Großmütter, besonders die eine der beiden.
Mes grand-mères, en particulier une des deux.
Meine Patentante, die, auch nicht studieren konnte,
ma marraine, qui n'avait pas eu l'occasion de faire des études, qui aurait adoré faire cela, mais qui est devenue institutrice, qui est restée sans époux. Ces femmes-là, de cette génération-là, ont vraiment joué un rôle important dans ma vie. Et c'est ce qui caractérise aussi, non seulement mon héroïne, mais aussi ces femmes-là. Elles regardaient, elles étaient calmes, elles essayaient de prendre la température du temps et du monde autour d'elles. Et elles étaient effectivement déterminées dans un cadre très restreint et elles essayaient de faire au mieux. Bien sûr, il y avait aussi des souffrances. Elles savaient aussi qu'elles devaient rester en dessous de leurs possibilités, à côté d'hommes qui vivaient au-delà de leurs possibilités. Et ça, c'était le destin de toute une génération de femmes.
Et de cette histoire, de cet héritage, on sent à travers ce roman, Bernhard Schlink, que vous vous sentez le dépositaire aussi de ces vies, de ces histoires. Ce sont ces femmes, vos grand-mères, comme vous venez de le raconter, qui vous ont aussi appris à être ce que vous êtes aujourd'hui. Oui, donc ma grand-mère maternelle en particulier.
Qui,
elle, n'a pas pu devenir institutrice, mais qui était une grande lectrice et qui connaissait par cœur ce que j'appelle le trésor de la poésie. Et je me souviens de promenades avec elle, ou alors on allait s'asseoir, et tout à coup, elle me sortait le poème qu'il fallait, qui était totalement adapté à la situation. 4-5 strophes, et elle écrivait aussi. Elle a écrit sur sa jeunesse, sur son enfance, ça n'a jamais été publié, mais des textes que moi je relis avec joie régulièrement.
Parce qu'il est beaucoup question dans Olga, comme dans le Liseur précédemment, de cela, d'échange, de transmission, de l'importance des mots aussi par la lecture ou par l'oralité. Olga, votre héroïne, donc une femme allemande et une femme du XXe siècle, tributaire d'une certaine manière de son temps. Elle est née à Breslau, à l'est de l'Empire allemand. Elle a été recueillie par sa grand-mère en Poméranie à la mort de ses parents. Elle est devenue enseignante. Elle sera ensuite mutée en Prusse orientale. Et puis plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, mal, Olga va fuir son visage pour s'installer à Neckar, comme couturière où elle vivra jusqu'à sa mort. Olga est une déplacée plus qu'une voyageuse volontaire. La plupart des frontières qu'elle va franchir, Bernard Schlink, ont aujourd'hui disparu, en tout cas ne sont plus tracées comme telles sur les cartes. Est-ce que cette histoire nous dit aussi beaucoup de la composition et de la recomposition des nations?
Olgas Schicksal beginnt als
Le destin d'Olga démarre en tant que destin prussien et devient le destin allemand.
Also das Aufwachsen in dem Dorf,
donc elle grandit dans un village où c'est le propriétaire terrien qui choisit tout, qui décide de tout, qui va travailler, comment on doit se comporter. Ça, c'est vraiment la Prusse, vraiment du 19e siècle, encore. Et la ville de Heidelberg, où elle va s'installer, Olga, donc après la guerre, et va vivre en tant que couturière. Alors ça, c'est déjà la République fédérale d'Allemagne d'après la guerre.
Qui ressemble plus à ce qu'on peut connaître aussi aujourd'hui. Olga devient enseignante. Son amour, Herbert, fils de bonne famille, fervent patriote, rêve lui d'ailleurs. Et il va rejoindre le corps expéditionnaire envoyé dans un protectorat allemand d'Afrique du Sud-Ouest. Un lieu où aura lieu d'ailleurs le premier grand massacre du XXe, le premier génocide. À son retour, Herbert, il repart presque aussi vite en Argentine. Et vous écrivez, Bernard Schlink, d'autres voyages suivirent au Brésil, dans la presqu'île de Kola, en Sibérie, au Kamchatka. Généralement, il était absent plusieurs mois. En Sibérie, ça a été près d'un an. À l'été 1913, il part en expédition dans l'Arctique. Il promet à Olga de revenir avant l'hiver et il ne reviendra jamais. De qui vous êtes-vous inspiré, Bernard Schlink, pour cette figure de l'amour du fiancé Herbert?
Angeregt zu Herbert hat mich.
Alors, ce qui m'a évidemment amené
à inventer
Herbert, c'est une figure historique qui n'a jamais trouvé place dans les livres d'histoire, mais c'est un jeune homme qui est vraiment parti dans le corps expéditionnaire combattre les Herero, donc en Afrique, et qui est tombé amoureux du désert. On ne peut pas dire ça autrement. Et à partir de cet amour pour le désert, il a fait d'abord il a décidé de faire une expédition, mais dans un autre désert, qui est le désert de glace et de la neige, et périra d'ailleurs au cours de cette expédition. Et je crois que cet amour pour le désert, c'est une nostalgie. Une envie de grandeur qui est peut-être aussi une envie de lumière, avoir envie de se perdre.
Et qu'est-ce qui les différencie, l'un comme l'autre, Olga et Herbert?
Ah ben,
je crois qu'on ne peut pas avoir deux personnes plus différentes.
Olga
est très terre à terre. Elle est réaliste, elle sait qu'elle vit dans un monde et ce qu'elle peut faire dans ce monde. Évidemment, elle est en deçà de ce qu'elle aimerait faire, mais elle sait dans quel monde elle vit. Elle comprend que l'Allemagne rêve de grandeur, trop de grandeur, avec ses envies de colonie, puis avec la Première Guerre mondiale. Elle a bien compris aussi que Herbert rêve aussi en trop grand. Tout ce qu'il entreprend, et surtout la dernière entreprise, va quand même lui coûter la vie.
Alors ce alles zu groß, on comprend dans le regard de Olga que c'est une constante dans l'histoire allemande. Olga écrit à Herbert et dit « J'ai voulu que Ferdinand fasse mieux que toi et que Ike ». On redéfinira ces deux personnages juste après. Mais sa génération aussi voit les choses en trop grand. Et aujourd'hui, Bernard Schlink, est-ce que vous pensez que les générations actuelles en Allemagne continuent à voir les choses en trop grand?
Elle rêvait aussi, enfin, ils rêvaient tous les deux, Ike et Herbert, de quelque chose de plus grand, mais aussi quelque chose de plus grand que la réalité pouvait même leur offrir.
Olga selbst hat ja eine Theorie, woher das kommt.
Olga a développé une théorie. Elle sait d'où ça vient.
Und sie geht zurück zu Heine, der irgendwo sagt,
die elle Deutschen, se replie sur Heine, le poète, qui dit les Allemands sont morcelés, cette Allemagne qui ressemble à plein de petits morceaux sur une carte et qui ont toujours eu envie d'une grande Allemagne.
In dem Moment, in dem sie et hatten, hat das moment, nicht aufgehört.
Au moment où ils ont eu cette grande Allemagne, eh bien, le rêve ne s'est pas arrêté, ils ont continué, et puis l'Empire colonial, l'Empire tout court. Ça a toujours été une nostalgie et toujours une envie, et ils n'ont jamais cessé d'avoir envie.
Et aujourd'hui, Bernhard Schlink, est-ce que ce rêve s'est épuisé, s'est éteint? Ou est-ce qu'il y a encore cette envie d'une grande Allemagne? Où est-ce que ce rêve s'est transposé en Europe, l'envie d'une grande Europe?
L'envie d'une grande Allemagne ou d'une Allemagne qui dominerait l'Europe, non, ça c'est terminé. Alors évidemment, on parle toujours du rôle plutôt dominant de l'Allemagne, mais en fait personne n'a envie de ça, on n'a plus envie de cela.
Aber Olga sagt ihm ja das Moralisieren.
Mais le côté moralisateur est toujours là, on va dire, un peu comme Olga. C'est plus vraiment envie, c'est pas l'envie du pouvoir dans le monde, mais il faut savoir quand même à quoi ressemble le monde et où se trouve la place que l'on a dans ce monde, et on a encore un peu de mal à l'exprimer, ça.
Elle était heureuse de ne plus entendre les haut-parleurs. Avec les nazis, le monde était devenu bruyant, mais rien n'est si désagréable à entendre qu'on renonce aussi à entendre ce qui ne l'est pas. Olga va devenir sourde un peu avant la Deuxième Guerre mondiale, dans cet entre-deux-guerres qui nous a été raconté aussi récemment par le réalisateur Jérôme Prieur, « Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler », avec la voix d'Ute Lemper. C'est un documentaire qui a été diffusé avant-hier sur Arte, en deuxième partie de soirée. Il est disponible d'ailleurs en replay. Et il raconte cette Allemagne de l'entre-deux-guerres qui retrace la montée du nazisme, l'évolution de la société allemande et l'accession au pouvoir d'Hitler à travers les témoignages d'Allemands, des Allemands qui ont fait le choix de quitter leur pays. Je vous propose d'écouter un extrait de l'entretien que Jérôme Prieur nous accordait à Noël.
Pour atteindre autre chose de l'ère du temps, il faut se servir, je pense, d'images qui sont à la première personne ou de témoignages qui sont à la première personne. Et donc, dans ce film, j'ai beaucoup utilisé, presque essentiellement, des images de films amateurs. J'ai eu l'idée, le parti pris, je dirais, plutôt, d'essayer de retrouver en Allemagne, essentiellement, ce que des amateurs, évidemment, d'autres Allemands, d'autres témoins, avaient filmé. Et ça nous donne à voir, en effet, un pays tout à fait inconnu, qui ne ressemble pas vraiment au cinéma de propagande, au cinéma officiel, et qui nous montre la joie, enfin, il faut oser voir ça, la joie, mais aussi la gêne, l'embarras, la peur, la lâcheté, enfin... toute chose qu'on ne voit pas forcément dans les actualités officielles. Et je trouve que là, on atteint quelque chose de l'époque qui est irremplaçable.
C'est un peu comme ça aussi, Bernhard Schlink, que vous avez pensé la dernière partie du roman, qui sont les lettres d'Olga, celles qu'elle écrivait à Herbert, son amour, parti donc en expédition, comme des témoignages simples d'amour, de désir, de regret, des témoignages du quotidien, ceux d'une femme, dans une époque tourmentée. Vous vouliez en revenir au jeu de l'histoire individuelle pour comprendre la grande histoire.
Also das Buch ist ja eine Annäherung an Olga Schritt und Schritt.
On se rapproche d'Olga pas à pas pendant tout le livre. La première partie raconte l'histoire entre ces deux personnages, Herbert et elle, on va dire d'un point de vue d'un observateur. Ensuite, j'ai voulu me rapprocher d'elle, donc c'est la rencontre avec Ferdinand, ce jeune garçon, elle parle avec lui, elle vit avec lui. Mais je ne m'étais pas encore assez rapproché d'elle. Alors dans la troisième partie, j'ai voulu vraiment la laisser parler, s'exprimer dans ses lettres.
Est-ce que vous diriez, comme Jérôme Prieur, que pour atteindre autre chose de l'ère du temps, il faut se servir d'images, de mots qui sont à la première personne, de témoignages?
existieren.
Auch.
Auch. Ah oui, bien sûr.
Um eine Zeit zu begreifen, müssen
bien sûr,
so viel
pour comprendre une époque, il faut écouter les gens qui parlent à la première personne du singulier. Il faut voir les images, effectivement, qui sont des vrais témoignages. Évidemment, parler et laisser parler les gens, c'est essentiel.
Et ça nous apprend aussi à ramener à échelle humaine, d'homme ou de femme, cette grande histoire qui s'est donc déroulée sur un siècle. La vérité d'Olga, elle n'apparaît du coup vraiment qu'à la fin du roman, que je ne vais évidemment pas donner, à travers ses lettres destinées à Herbert, et que Ferdinand va lui retrouver après la mort d'Olga, on le disait autour des années 70, par le biais d'un antiquaire qui dit d'ailleurs « J'ai fait des études d'histoire, il faut que vous le sachiez, et là j'ai pensé que je saisissais le passé tel qu'il avait été réellement. Mais au lieu de cela, après 30 ou 40 lettres de plus, je me suis dégoûtée de mon intrusion avide dans d'autres vies. L'histoire n'est pas le passé tel qu'il fut réellement, écrivez-vous, Bernard Schlink, c'est la forme que nous lui donnons. Il n'y a pas une vérité.
Es gibt also für diesen jungen Ferdinand keine Wahrheit. Ist er nicht bis zum Ende gedrungen? Hat er vorher gebremst?
Er ist so weit gedrungen, wie er dringen konnte.
Il est allé aussi loin qu'il le pouvait
und
dans cette vérité.
Er, vieles nicht weiß,
et le fait qu'il ne sache pas tout et que certaines choses restent à la forme interrogative ne change absolument rien au fait qu'il ait quand même pu embarquer et comprendre une partie de la vérité d'Olga, une grande partie. Mais c'est comme ça, notre monde et l'histoire de notre monde. Tout n'est pas de l'invention, tout n'est pas de la théorie, il y a des vérités historiques quand même qui ont leur importance et dont nous comprenons de plus en plus au fil du temps. Mais on ne peut pas reconstruire toute l'histoire.
On fait connaissance avec le narrateur à la fin de la première partie du roman. Lui, c'est Ferdinand, le dernier fils de la famille dans laquelle Olga est couturière dans la dernière partie de sa vie. Ils vont se lier d'amitié, comme dans Le Liseur. C'est une amitié qui va se nouer entre un jeune homme et une femme plus âgée, autour de la lecture, autour aussi du récit de leur vie. Dans l'actualité musicale, la pianiste Hélène Grimaud, elle sera en concert à la Philharmonie lundi 21 janvier à 20h30 avec le Gewandhausorchester de Leipzig sous la direction d'Andris Nelsons. Elle jouera le concerto pour piano de Schumann. On avait envie de vous offrir à vous, Bernard Schlink, et à vous qui nous écoutez un extrait du premier mouvement.
Thank you.
le concerto pour piano de Robert Schumann, compositeur du 19e. Il est mort un peu avant, quand même, une trentaine d'années avant la naissance de votre héroïne, Olga, interprétée ici au piano par Hélène Grimaud, avec l'orchestre Staatskapelle de Dresde, dirigé par le grand chef finlandais Esa-Pekka Salonen. Elle sera donc, là c'était un extrait d'un disque édité par le Deutsche Grammophon. Vous pourrez donc retrouver Hélène Grimaud à la Philharmonie en concert lundi 21 au soir si vous êtes sur Paris, Bernard Schlink. On pourrait garder ce concerto pour piano si jamais un jour il y a une adaptation de Olga au cinéma pour la bande son du film.
Ich mag das Klavierkonzert.
Ah oui, j'aime beaucoup ce concerto pour piano. J'aime bien Hélène Grimaud.
Ich weiß nicht, wie gut sich Olga verfilmen lässt.
Ah, je ne sais pas si Olga est fait pour le film, le cinéma.
Pas sûr.
Ah bah oui, warum nicht?
Oui, enfin, pourquoi pas, hein? Et puis pourquoi pas garder cette musique-là, d'ailleurs.
Mm-hmm. Invité jusqu'à midi et demi, l'écrivain, romancier, juriste allemand Bernard Schlink, à l'occasion de la parution de son nouveau roman, Olga, chez Gallimard.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
Entre roman et cinéma, interrogeons-nous maintenant, Bernard Schlink, si vous le voulez bien, sur le rapport de l'écrivain à l'histoire. Revenons d'abord sur votre best-seller, Le Liseur, sorti en 95 en Allemagne, qui vous a fait connaître dans le monde entier, qui a été traduit en 37 langues. C'était une histoire d'amour dans l'Allemagne d'après-guerre entre Michael et Anna, une femme bien plus âgée que lui, dont il découvrira plus tard qu'elle a été gardienne de camps de concentration. The Reader, c'est l'adaptation qui a été réalisée par Stephen Daldry avec Kate Winslet, donc aux États-Unis, par Hollywood, de votre livre. Elle a été, Kate Winslet, pour l'occasion, Oscar de la meilleure actrice en 2009. Une odyssée dans l'Allemagne d'après-guerre, sans rédemption ni pardon. Voilà ce que disait de ce livre, de cette histoire, la vôtre, le réalisateur Stéphane Daldry, extrait de la bande-annonce.
Excuse me, I'm looking for Hannah Schmidt.
Schmidt is left.
Left? Did she say where she was going?
My name is Hannah Schmidt.
You joined the SS in 1943.
They were looking for guards.
Societies think they operate by morality, but they don't.
She was making these women read aloud to her.
Look at that woman.
Which woman?
The woman you're always staring at.
I don't know which woman you mean.
Did she acknowledge the effect she had had on your life?
She had done much worse to other people.
You were picking women out and saying, you and you and you have to be sent back to be killed.
No, no.
Have you spent much time thinking about the past? It
doesn't matter what I think. It doesn't matter what I feel. The dead are still dead.
How wrong can you be?
Le Liseur ou The Reader pour son adaptation au cinéma par l'américain Stephen Daldry, c'est la banalité du mal, disait le réalisateur au sujet de cette histoire que vous avez pensée, Bernard Schlink. Il ne touche pas que des personnes mauvaises, machiavéliques, mais des gens ordinaires. Le mal, il tentait de raconter comment une société, un pays entier peut basculer du mauvais côté de la force dans le mal, justement. Est-ce que c'est cette interrogation entre le bien et le mal qui guide aussi toute votre recherche, votre écriture, en miroir, bien sûr, avec l'histoire de l'Allemagne ?
Das ist ein Thema.
C'est certainement une des thématiques importantes. Et ce qui me préoccupe jusqu'à maintenant, c'est lorsque je pense à 1933, c'est que cela a pris tellement peu de temps. Les mois ont passé très vite, le temps est passé très vite. Et quand je vois toutes les institutions, les universités, les partis, l'Église, enfin, tout le monde est tombé vraiment aux mains du national-socialisme. Tout ce qui servait vraiment de socle qui paraissait tellement tellement infaillible, la culture, la connaissance, etc. Tout ça, ça s'est effondré en quelques mois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe encore et encore, parce que finalement, ce socle, eh bien, est-ce qu'il est vraiment sûr? Cette couche de glace que l'on croit vraiment incassable, est-ce qu'elle, voilà, elle va durer jusqu'à quand? Et on voit bien en Europe, un peu, aux États-Unis, eh bien, que la glace risque de se rompre, ou en tout cas est devenue de plus en plus fragile. Il y a 12 ans, quel était notre regard sur le monde et quel est notre regard maintenant?
Vous êtes inquiet aujourd'hui?
Ah oui, je suis inquiet. Oui. Et si il y a 12 ans, on m'avait demandé « Croyez-vous au progrès ?» J'aurais dit « Oh ben non, on ne peut pas croire au progrès. » Mais bon, non, en fait, je ne sais pas, on a pensé que ça allait continuer comme ça, bien, que rien ne nous arriverait, et puis tout à coup, on repart en arrière. On ne pouvait pas l'imaginer, ça.
Est-ce que les garde-fous qui ont été pensés, bâtis, aussi mise en place après la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et là, je pose la question autant aux romanciers qu'aux juristes, professeurs de droit que vous êtes, vous semble suffisant pour nous protéger d'une forme de répétition d'histoire aujourd'hui?
L'histoire ne se répète pas à l'identique. Donc, nous avons créé effectivement des garde-fous, des institutions internationales, européennes. Et je ne sais pas si elles sont assez solides. Je l'espère. Parce que je crois que nous devons tous participer à ces institutions et nous mettre à leur service. Et puis ensuite, reste l'espoir.
Et l'écriture?
Oui. Et l'écriture, oui, bien sûr, peut aussi participer.
Merci beaucoup à vous, Bernard Schling, d'être passé autour de cette grande table. Je rappelle donc le titre de votre nouveau roman, Olga, qui vient de paraître chez Gallimard. Merci mille fois à vous et merci aussi pour cette grande traduction.
Je vous remercie pour votre interrogation, vos questions.